Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Et si on considère que Schopenhauer en fait n'est pas pessimiste, mais qu'en fait il a pour seul but un peu d'éveiller les consciences, ça peut être intéressant de finalement voir plus loin que l'aspect sombre que peuvent avoir les textes de Schopenhauer.
De personnes d'esprit et de beaucoup d'esprit qui jugent toujours. Toujours ils devinent, car c'est deviner que de juger sans sentir quand on a le motif propre du jugement. Ils ignorent la portée de l'esprit humain. Ils croient qu'il peut tout connaître. Ainsi, ils trouvent de la honte à ne point prononcer de jugement et s'imaginent que l'esprit consiste à juger. Mais le philosophe croit, lui, qu'il consiste à bien juger. Il est plus content de lui-même quand il a suspendu la faculté de se déterminer que s'il s'était déterminé avant d'avoir senti le motif propre à la décision. Ainsi, il juge et parle moins, mais il juge plus sûrement et parle mieux. Et l'équipe des Nouveaux Chemins repasse toute cette semaine le bac philo et tente de juger moins, mais bien, Marianne Chassor, Antoine Ravon, David Pargamin, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec cette semaine à la lecture des textes Fabien Wolfrom, à la réalisation Nicolas Berger et Véronique Villa, et à la prise de son Marcos Darras et Stéphane Poitvin. Que le philosophe parle moins, rien de moins sûr. À découvrir la philosophie en terminale, on serait même plutôt noyé sous le flot de leurs mots, concepts et argumentations. Et à se rappeler ses cours au lycée, on est parfois pris de vertige devant toutes les connaissances que l'on a dû découvrir en moins d'une année. Mais pas d'inquiétude, tout est une question de méthode et surtout de plaisir. À quelques semaines de l'épreuve reine, et juste pour le frisson de se rappeler nos souvenirs de lycéens, rien de mieux donc que de prendre le temps d'écouter des dissertations et des explications de textes en train de se faire, sous vos oreilles et par un professeur qui repasse l'épreuve pour vous. Dans cette semaine spéciale Bac 2016 que France Culture organise avec l'histoire, les sciences et les lettres, voici donc la philosophie et de quoi vous préparer au mieux et autrement que dans une classe. Lundi, c'est ainsi que Flavie Garnier-Sacré éclairait pour vous le sujet « L'État doit-il maintenir l'ordre ou assurer la justice ?» que mardi, Ligia Saint-Jean expliquait un texte du système des Beaux-Arts d'Alain et qu'hier, mercredi, Thomas Schauder affrontait la question « Mon corps m'appartient-il » Mais aujourd'hui, c'est Clémentine Gourdon, professeure au lycée en forêt de Montargis, qui prend le temps de lire et d'expliquer au micro et devant ses élèves un extrait du monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Bonjour et bienvenue à vous, vos élèves, élèves de Terminal S et STL.
Et donc c'est vrai que... Moi, quand je lis Schopenhauer, je suis comme tout le monde, je suis déprimé, mais finalement, moi, ce que j'ai pensé du texte, c'est peut-être pas du tout ce que Schopenhauer aurait pensé. Ou alors, finalement, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait que je le critique, il voulait que je me questionne, il voulait que je trouve son texte pessimiste et que je trouve par moi-même des manières de sortir de cette attitude sombre et pessimiste du texte.
Schopenhauer, dans son texte, il bombarde un peu d'exemples. Enfin, il nous pousse plutôt à ce que nous-mêmes, en fait, on acquiesce, on soit d'accord avec lui finalement, parce que il nous donne pas tant d'exemples que ça. Il nous pousse à aller voir nous-mêmes. Et c'est là où finalement on se rend compte, on dit, il est vachement pessimiste, mais finalement, est-ce qu'il a pas un peu raison ? C'est vrai que quand je regarde l'histoire, quand je regarde autour de moi, quoi, c'est s'il y a de la misère. Enfin, on est miséreux et je pense que. Évidemment, il cherche à ce qu'on le critique, mais je pense qu'il nous pousse plutôt à ce qu'en fait, on lui donne raison par nous-mêmes. Et c'est là aussi sa force, finalement. Peut-être qu'on le critique, mais plutôt que nous, on lui donne raison par nos propres exemples, qui nous invitent à aller chercher dans le texte, si je me souviens bien.
Grâce à notre effort pour tracer une esquisse de la vie humaine dans ses traits élémentaires, nous devons être arrivés, dans la mesure où l'on peut se convaincre a priori, à cette conviction que, par nature, la vie n'admet point de félicité vraie, qu'elle est foncièrement une souffrance, aux aspects divers, un état de malheur radical. Nous pourrions donner bien plus de vie et de corps à cette idée en nous adressant à l'expérience, à l'a posteriori, en descendant au cas particulier pour nous mettre sous les yeux des images, pour nous peindre en des exemples notre misère sans nom, pour invoquer les faits et l'histoire, où il est bien permis aussi de jeter un regard et de chercher des lumières. Il suffit d'être sorti des rêves de la jeunesse, de tenir compte de l'expérience, de la sienne et de celle des autres, d'avoir appris à se mieux connaître par la vie, par l'histoire du temps passé et du présent, par la lecture des grands poètes, et de n'avoir pas le jugement paralysé par des préjugés trop endurcis. Pour se résumer les choses ainsi, le monde humain est le royaume du hasard et de l'erreur, qui y gouverne tout sans pitié, les grandes choses et les petites. À côté d'eux, le fouet en main, marche la sottise et la malice. Aussi voit-on que toute bonne chose a peine à se faire jour, que rien de noble ni de sage n'arrive que bien rarement à se manifester, à se réaliser ou à se faire connaître. Qu'au contraire, l'inepte et l'absurde en fait de pensée, le plat, le sans-goût en fait d'art, le mal et la perfidie en matière de conduite dominent, sans être dépossédés, sauf par instant. En tout genre, l'excellent est réduit à l'état d'exception, de cas isolé, perdu dans des millions d'autres. Et si parfois il arrive à se révéler dans quelque œuvre de durée, plus tard, quand cette œuvre a survécu aux rancunes des contemporains, elle reste solitaire, pareille à une pierre de ciel que l'on conserve à part, comme un fragment détaché d'un monde soumis à un ordre différent du nôtre. Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation.
Clémentine Gourdon, on vient d'entendre, interprété par Fabien Wolfram, un extrait du Monde comme volonté et comme représentation. C'est un extrait du livre 4, paragraphe 59, un texte évidemment d'Arthur Schopenhauer. Face à un tel texte, l'élève de terminale, le jour du bac, peut complètement perdre ses moyens dans la mesure où le texte est tellement pessimiste qu'on se sent accablé même par ce qu'il dit et qu'on ne pourrait pas réagir face à ça.
Oui, ce serait une réaction tout à fait normale. Et étant donné une certaine morosité ambiante, l'élève pourrait reculer devant un tel texte hein, qui lui demanderait d'ajouter à cette morosité une souffrance supplémentaire.
Et qui semble difficile à expliciter dans la mesure où c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on a nous-mêmes pu constater, la misère dont parle Schopenhauer. C'est ça aussi qui est difficile face à un texte comme ça pour un élève de terminale, c'est finalement de prendre de la distance en se disant qu'est-ce qui a interrogé dans cette thèse qui me semble si évident.
Oui, et en même temps, Schopenhauer ne nous demande pas de prendre de la distance, hein, mais de mieux revenir à nous-mêmes et aux autres et d'exemplifier son propos parce que lui ne le fait pas véritablement. Donc il me semble que c'est au contraire un texte assez simple à expliquer. Déjà, il permet de solliciter beaucoup de concepts qui sont vus au cours de l'année. Il a une structure aussi qui me semble extrêmement claire et surtout, je pense qu'il permet de donner beaucoup d'exemples, des exemples très simples de la vie quotidienne où une simple observation du monde suffirait.
Alors face à un tel texte, comment l'élève procède une fois qu'il a peut-être détecté la notion qui est en jeu, alors à savoir celle non peut-être du bonheur finalement, est-ce que ce serait ça la notion en jeu ?
Donc ce serait un grave contresens que d'écrire en introduction que le thème de ce texte c'est le bonheur, car c'est exactement l'inverse. Il faut être attentif aux termes et se demander s'il n'y a pas plusieurs termes qui sont répétés ou éventuellement d'un même champ lexical. Or, on trouve à plusieurs moments le terme de souffrance, de douleur, donc on peut supposer misère également, on peut donc supposer à partir de ces trois termes que le thème de ce texte, c'est la souffrance. Et on voit bien qu'il y a deux parties, l'une qui traite de l'individu, de la souffrance individuelle, l'autre de la réalité du monde humain. Donc il faudrait, c'est vrai que c'est en ce sens que le texte est peut-être un petit peu complexe, c'est qu'il comporte deux thèmes, l'individu, la nature de la vie humaine et la nature, la réalité du monde humain. Il faudrait parvenir à bien distinguer ces deux thèmes.
Ce qui est simple aussi dans ce texte, c'est que la thèse apparaît dès le départ.
Elle est très très évidente, oui.
Est-ce que vous pouvez nous la citer et nous dire comment l'élève peut la mettre en avant dans son introduction ?
Alors déjà, le terme « convaincre » qui est employé par l'auteur doit nous indiquer qu'il va énoncer une thèse. Convaincre, le mot « conviction » également. Et donc la thèse est formulée ainsi. « Par nature, la vie n'admet point de félicité vraie. Elle est foncièrement une souffrance aux aspects divers, un état de malheur radical. » L'emploi du verbe « être » peut nous indiquer également donc, qu'il s'agit d'un postulat et donc d'une thèse.
À partir de là, en fait, comment l'élève va déplier le plan en fait, du texte et qu'est-ce qui va, une fois qu'il a détecté cette thèse, finalement, comment il va l'interroger ? Comment il va en sortir une problématique et exprimer cette problématique à travers le mouvement du texte ?
Alors, c'est vrai que le problème ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connecteur logique qui permettrait de passer extrêmement aisément d'une partie à une autre. Mais on voit bien qu'il y a une première partie où Schopenhauer énonce sa thèse en précisant qu'il s'agit bien d'une thèse issue d'études qui sont générales, qui sont abstraites, qui sont des thèses qui sont rationnelles. Et il propose ensuite d'en venir à l'expérience. Donc déjà, l'élève pourrait se rendre compte qu'il y a ici deux parties à effectuer. Une partie qui repose sur la thèse a priori et puis la thèse a posteriori. On passe du rationalisme à l'empirisme, on passe de l'abstrait au concret, du discours à l'image. Et ça me semble être assez évident. Et puis ensuite, il y a des conditions qui sont énoncées pour adhérer à sa thèse. Il suffit d'être sorti des rêves de la jeunesse. Et ensuite, donc une énumération qui donc amène à la deuxième partie de la thèse de l'auteur concernant la réalité du monde humain. Donc il faudrait là ici réussir à voir qu'il y a des conditions qui sont posées.
Et sous la forme de la problématique dans l'introduction, avec ces deux dimensions qui sont à la fois d'un côté de l'histoire de l'individu et puis après du côté de l'histoire du monde, de quelle manière l'élève pourrait formuler une problématique qui décollerait en fait de cette, à la fois de ce que dit Schopenhauer, c'est-à-dire de ce malheur qui nous écrase, de ce malheur radical, et qui permettrait de l'interroger tout en peut-être soulignant le fait que Schopenhauer, comme l'ont dit d'ailleurs vos élèves quand on les a interrogés, la question se pose, déploie une stratégie, soit pour que l'on soit d'accord avec lui, soit pour qu'on le discute. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose que l'élève peut faire intervenir dans sa problématique. Est-ce que cette thèse d'un bonheur radical, Schopenhauer veut-il qu'on la conteste ? Veut-il nous révéler quelque chose que l'on n'aurait pas déjà vu ? Comment l'élève pourrait formuler les choses ?
C'est vrai qu'il devrait se demander, l'élève, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça, Schopenhauer ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Est-ce qu'il cherche à susciter une prise de conscience ? Est-ce qu'il cherche à me convaincre d'une chose dont moi-même je cherche à ne pas me convaincre? Est-ce qu'il cherche à soulever un voile qui recouvre mes yeux? Est-ce qu'il m'invite à le contester? Et là, la réponse est non. Je pense qu'une problématique qui prendrait d'emblée le contre-pied du texte et du propos de Schopenhauer serait une mauvaise problématique. Par exemple, une problématique qui serait formulée de la sorte, ça va être mal formulé, mais en quoi Schopenhauer a-t-il tort ? En quoi la vie est-elle au contraire un état de bonheur radical ? C'est une problématique qui passerait complètement à côté du texte, qui ne pourrait pas l'expliquer, qui ne serait que dans la critique et même la destruction. Or, discuter un texte, ce n'est absolument pas le détruire. Donc il devrait se demander à partir de la thèse, une problématique se construit toujours à partir de la thèse et du thème, que me dit Schopenhauer à propos de ce thème ? Pourquoi cette thèse ? Pourquoi défend-il une telle thèse ? Que puis-je dire à propos de cette thèse ? Comment en est-il arrivé à une telle thèse ? Et éventuellement, que puis-je, moi, dire de différent à propos de ces thèmes et de cette thèse ? Donc, en tout cas, problématique, voilà. Elle s'inspire du thème, des thèses, des thèses. Et elle poursuit le travail qui a été fait en introduction lorsque les enjeux du texte sont étudiés.
Quelle pourrait être la différence entre ce qui va être dit dans l'introduction et ce qui va être dit dans cette première partie, en fait, hein, parce que vous, on l'a entendu, vous découpez le texte en trois parties. La première partie est assez courte. Elle va du début jusqu'à l'affirmation de cette thèse qui est que la vie est un état de malheur radical. Comment différencier du coup l'introduction de la première partie qui vont être assez similaires ?
Il faudra se demander dès le début pourquoi une telle thèse et donc pourquoi un tel texte. Or Schopenhauer nous indique qu'il a réalisé des études, qui lui permettent de se convaincre a priori de cette thèse, à savoir que la vie n'admet point de félicité vraie. Donc ici, l'élève, s'il ne connaît pas Schopenhauer, ce qui est tout à fait acceptable, voire tout à fait normal.
Ce qui est même, qui n'est pas requis d'ailleurs, la connaissance de l'auteur n'est pas requise.
Bien sûr. Donc l'élève n'a pas à connaître Schopenhauer, ne sera pas sanctionné pour cela. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il ne faut jamais laisser sous silence une partie d'un texte. Jamais. Mieux vaut interpréter et se tromper plutôt que de ne rien dire. Donc il faudrait se demander quelles peuvent être ces études, de l'ordre le plus général. Qu'est-ce qui, dans la nature humaine, pourrait expliquer le fait qu'elle est misérable? Quels sont ces traits élémentaires dont Schopenhauer nous parle qui font notre malheur? Alors ici, l'élève devra se remémorer ses cours de l'année, se demander est-ce que ce n'est pas le désir, est-ce que ce n'est pas la conscience de sa fragilité, de sa mortalité, sa petitesse. On pourrait convoquer éventuellement Pascal, mais même, on n'en a pas besoin. Il suffirait juste de là d'être libre, de penser par soi-même et de se demander, moi qui ne connais pas Schopenhauer, comment pourrais-je ici justifier cette thèse? Donc la première partie, il s'agit de se demander comment justifier et légitimer cette thèse, puisque c'est ce que Schopenhauer fait lui-même. Et donc il faut essayer d'aller dans son sens et de lui donner un petit peu de crédit, de se dire, bon, il a réalisé des études, c'est quand même que c'est quelqu'un de sérieux. Alors disons-nous que peut-être il mérite pour l'instant qu'on s'attache à sa thèse.
Pourquoi voulez-vous entendre mon histoire? Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous nous aimons? Laissez-moi vous prévenir, ok? Je suis pas un gars sympathique. L'amabilité n'a jamais été une priorité pour moi. Et franchement, je dois vous le dire, c'est loin d'être le film guimauve de l'année. Alors si vous êtes un de ces idiots qui veut monter au septième ciel, courez vite vous faire masser les pieds.
Maman, regarde, le monsieur, il parle tout seul.
Allez, viens, Justin.
Mais qu'est-ce que ça signifie, d'ailleurs? Rien du tout, zéro, niente. Rien n'engendre rien. Une chose est sûre, c'est qu'on ne manque pas d'idiots qui bavassent. Pas moi. Et malgré tout, le jour va arriver où on vous mettra dans une boîte. Et c'est le tour de la nouvelle génération d'idiots qui vous parlera aussi sans fin de la vie et qui vous dira ce qu'il convient de faire. Mon père, lui, s'était suicidé parce que la presse du matin le déprimait. Et peut-on l'en blâmer? Avec les horreurs, la corruption, l'ignorance, la pauvreté, le génocide, le sida, le réchauffement de la planète et le terrorisme et les valeurs familiales à la con et les fous de la gâchette. L'horreur, Kurtz disait à la fin du Cœur des Ténèbres. L'horreur. Reinhard de Kurtz, on ne lui livrait pas le Times dans la jungle. Là, il aurait vu l'horreur. Mais que faire? Vous lisez qu'il y a un massacre au Darfour ou que un bus scolaire a explosé et vous dites « Oh mon Dieu, l'horreur !» Et puis après, vous tournez la page, vous finissez vos œufs de poule élevés en plein air. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est trop accablant. Moi aussi, j'ai essayé de me suicider. Comme vous voyez, ça n'a pas marché.
Clémentine Gourdon, on vient d'entendre un extrait du film de Woody Allen de 2009, Whatever Works, dans lequel ce sexagénaire qui s'adresse à la caméra, un New-Yorkais misanthrope cynique, effectivement permet peut-être d'illustrer la deuxième partie du texte dans laquelle Schopenhauer nous invite à donner plus de vie et de corps à cette idée, à savoir à sa thèse que la vie est un état de malheur radical, en s'adressant à l'expérience, ce qu'il appelle à la posteriori, c'est-à-dire en descendant au cas particulier. Cet exemple du sexagénaire, c'est un cas particulier qui va nous prouver, et ça n'est pas seulement montrer une sorte de cas noyé dans la masse, qui va nous montrer que la vie est un état de malheur radical. C'est de cette manière-là que va procéder Schopenhauer par cas particulier.
Oui, alors ce que voudrait Schopenhauer, c'est qu'on n'attende pas 60 ans pour se rendre compte de cela, bien sûr. Un sens très aigu de l'observation permet de livrer une telle connaissance dès l'âge de 18 ans. Et c'est justement ce que Schopenhauer nous invite à faire. Et c'est justement pour ça que je pense qu'il faudrait donner un tel texte à de jeunes élèves, hein, parce qu'il s'adresse indirectement à eux. Mais en effet, c'est là qu'on voit à quel point il est pédagogue en nous demandant, nous, avec nos propres armes, d'appuyer sa thèse en descendant au cas particulier, en descendant dans l'enfer vivant de l'homme, et ne serait-ce qu'en jetant un regard sur les actualités. Enfin, rien de compliqué, en fait, là, dans ce que nous demande Schopenhauer. C'est ça qui est absolument admirable, c'est un texte qui est tellement contemporain et tellement pédagogique.
Alors, comment interroger Schopenhauer? Quelles questions l'élève pourrait lui adresser sans, en fait, tomber dans l'autre écueil qui est, vous avez détecté, celui qui est de critiquer l'auteur, ou même de faire un hors-sujet en parlant du bonheur. L'autre écueil, c'est de faire de la paraphrase. Et là, le problème, c'est que Schopenhauer est tellement clair et on tellement d'accord, c'était un peu ma question au départ, c'est que comment interroger Schopenhauer? Quelles questions on peut lui poser? Est-ce qu'on doit à ce moment-là lui soumettre des images contraires de bonheur? Est-ce que ce serait une manière d'interroger Schopenhauer?
Alors, première chose pour éviter la paraphrase, quand il nous demande de nous mettre sous les yeux des images, il faut lui mettre sous les yeux des images. Ainsi, en exemplifiant le propos déjà, on sort de la paraphrase. Donc, il faudrait questionner l'auteur et envisager, c'est vrai, pour mieux réfuter cette idée ensuite, hein, je pense, afin de rester dans la cohérence du texte. Donc il faudrait envisager, c'est vrai, des instants de plaisir, des instants de joie, voire un état de bonheur radical, bien que cela semble contradictoire, hein, dans les termes. Envisager un état de bien-être, se remémorer des instants de joie qui perdurent encore à l'instant présent. Il faudrait proposer, sans postuler que c'est la seule réalité, une possibilité éventuellement d'être heureux, et puis invoquer des faits de l'histoire qui seraient des faits joyeux, mais ça m'a l'air difficile.
En fait, à chaque fois, convoquer des exemples, c'est-à-dire soumettre peut-être des images contraires à ce que dit Schopenhauer, pour en fait dire, mais en fait, il a vraiment raison, parce que si je me souviens d'un très bon souvenir, en fait, j'en suis nostalgique, donc oui. Là, le malheur revient. Si je pense à l'histoire, en fait, je ne me souviens que d'événements marquants, mais dans un mauvais sens. Oui. Finalement, en fait, on va essayer de se faire contrepoint de Schopenhauer pour, en fait, se rendre à l'évidence qu'il a raison. Est-ce que l'élève va faire apparaître ce mouvement-là, ce processus même de réflexion?
Ça ferait en effet une excellente copie, oui. Envisager des exemples contraires à la thèse de Schopenhauer pour mieux y revenir, ce serait un dynamisme absolument formidable, ouais.
C'est ce que demande Schopenhauer?
Je ne pense pas. Je pense que Schopenhauer nous demande de lui livrer des exemples de but en blanc, de misère sans nom, de faits historiques malheureux, sans qu'on ait à en passer par des instants plus lumineux. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit toujours que pour révéler la noirceur, bah, il faut toujours en effet du clair, de la clarté. Donc oui, peut-être qu'il serait d'accord pour qu'on prenne le contre-pied pour mieux appuyer sa thèse. C'est souvent comme ça qu'on procède d'ailleurs quand on est rhéteur.
Un de vos élèves tout à l'heure, Guillaume, disait que quand on lisait ce texte, finalement, il soupçonnait que Schopenhauer ait une forme d'ironie qui, en fait, nous dépeindrait la vie d'une telle manière, en fait, qu'on devrait peut-être le remettre en question. Et finalement, on peut aussi se poser la question, c'est-à-dire que Schopenhauer, sa thèse est crédible. Mais est-ce qu'elle est certaine?
En fait, c'est une question d'histoire de la philosophie, parce qu'on n'est même pas certain que Schopenhauer était certain de sa thèse. Donc,
mais ça, l'élève ne veut pas le savoir, il ne peut même pas le soupçonner.
Mais l'élève pourrait se demander, est-ce qu'il n'est pas simplement en train de me provoquer? Est-ce qu'il n'est pas, en effet, ironique? Mais non, je ne pense pas. Non, il me semble ici qu'il y a quelque chose à prendre vraiment au sérieux qui n'est d'habitude pas assez pris au sérieux, justement. Et il est normal, quand on a 18 ans et qu'on passe le baccalauréat, de ne pas vouloir prendre au sérieux les propos de Schopenhauer. Mais ici, il s'agit vraiment de prendre au sérieux une misère qui n'est pas évidente, parce qu'on se voile les yeux, et c'est normal, on veut être heureux.
Oui, ou alors on peut dire que l'adolescence est aussi le moment le plus désespéré de sa vie, et on va rencontrer ce texte, et ce texte ne nous éclairera en rien. Si le lecteur est pris au piège, la stratégie de Schopenhauer marche, c'est-à-dire fonctionne, on est là, on ne peut que être d'accord, nos yeux sont ouverts et on s'est rendu à l'évidence, que va-t-on en faire? C'est-à-dire que finalement... philosophiquement, c'est là où ça peut poser un problème, ne serait-ce que conceptuellement, c'est-à-dire que se demander qu'est-ce qui est en jeu, en fait. Est-ce que c'est une stratégie d'argumentation, en fait? Est-ce que c'est le malheur? Est-ce que c'est l'existence? Est-ce que, en fait, quel est l'enjeu de ce texte, véritablement?
L'enjeu de ce texte, et je crois qu'il est le même que celui qui a parcouru la philosophie et qui a été l'origine de la philosophie, c'est sortir de la caverne. C'est susciter une prise de conscience de ce que Schopenhauer pense être la réalité du monde. C'est soulever un voile d'illusion qui recouvre nos yeux quand on les porte sur nous et sur le monde. C'est pourfendre des illusions. C'est nous rappeler un réalisme et c'est mettre fin à un optimisme idéaliste, en fait. Parce que c'est vrai que... Enfin, il me semble qu'on ne peut pas nier que le réalisme va souvent de pair avec le pessimisme. Donc Schopenhauer est souvent taxé de pessimiste, mais c'est avant tout un réaliste. Et en effet, les deux sont liés, bien sûr, mais...
Ce qui est très intéressant pour un philosophe, c'est qu'il revendique le fait de procéder par image. Plus que un philosophe dirait se tiendrait d'argumentation très conceptuelle, et là il prend le parti de procéder par image, ce que ferait plutôt un écrivain, ou ce qu'on entend par exemple dans l'extrait du film de Woody Allen. Ça c'est aussi intéressant et l'élève peut le remarquer.
Ça fait du bien d'avoir affaire à un philosophe qui soit si peu rationaliste pour une fois, en fait, qui sortent de ces hautes mannes et qui redescendent à la manière d'une catabase, d'une descente aux enfers, qui soit si proche quelque part aussi de son monde. Un Schopenhauer qui était dit misanthrope ici, je trouve au contraire, enfin, j'ai l'impression que ce texte déborde au contraire de pitié, hein, de pitié et puis d'amitié pour son prochain. Et oui, là, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un texte qui soit si imagé, qui nous demande, en tout cas, de l'imager.
Et qui nous demande alors, comme vous le disiez, d'abonder dans son sens et de fournir aussi d'autres images. Quelles pourraient être ces images, par exemple, que l'élève pourrait fournir ?
Des images de souffrance personnelle, de faits historiques, tout.
Oui, quand il dit pour nous peindre des exemples notre misère sans nom, pour invoquer les faits et l'histoire, mettre sous les yeux des images, comme il dit, l'élève aurait seulement à énumérer un certain nombre d'images, effectivement à interroger ces images, à relever le paradoxe pour un philosophe qui consisterait à avancer dans une argumentation. Ce serait déjà une sorte de chose à relever dans sa démarche, à savoir de vouloir convaincre par quelque chose de l'expérience, vouloir atteindre une thèse universelle en passant par le cas particulier.
Oui, alors des exemples de misère sans nom individuelle, même chez l'individu, même chez l'adolescent le plus sans histoire et donc le plus heureux, il y aurait des exemples extrêmement simples. La mort d'un chat, par exemple, c'est bête, mais la mort d'un chat, ça suffirait à parler de... Peut-être pas de misère sans nom, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas d'une souffrance, parce que Schopenhauer dit bien, la souffrance a des aspects divers. Donc, qui dit aspects divers dit éventuellement degrés divers, nature diverse, mais aussi degrés divers. Donc, pour l'un sera la souffrance, ce sera la mort d'un chat, pour l'autre ce sera le décès d'un parent, les amours mortes qui font tant écrire les chanteurs et les poètes. Pour l'histoire, on pourra se souvenir, puisque c'est étudié en terminale, du Rwanda, des 800 000 Tutsis environ, assassinés. Les faits, ce sont les actualités. C'est l'île de Lesbos, les réfugiés qui chaque jour arrivent, des parents sans enfants, des enfants sans parents. Je pense que l'effort ne sera pas grand. Et c'est encore une fois pourquoi ce texte est, il me semble, assez simple à expliquer. Et c'est encore une fois comme ça qu'on sort de la paraphrase, par l'exemple. Et c'est en effet ainsi que l'on passera du cas particulier à l'universalité, parce que chacun souffre et a souffert, que ce soit à un degré très faible ou que ce soit une souffrance intense. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Girl, don't be a bad girl.
Vous êtes sur France Culture, semaine spéciale Bac 2016 et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance où c'est le quatrième et dernier moment de notre série consacrée à l'épreuve de philosophie. Et aujourd'hui, c'est Clémentine Gourdon, professeure au lycée en forêt de Montargis, qui explique pour nous un texte de Schopenhauer extrait du monde comme volonté et comme représentation et aussi pour ses élèves qui sont présents. Remember you like a child girl.
Il suffit d'être sorti des rêves de la jeunesse, de tenir compte de l'expérience, de la sienne et de celle des autres, d'avoir appris à se mieux connaître par la vie, par l'histoire du temps passé et du présent, par la lecture des grands poètes, et de n'avoir pas le jugement paralysé par des préjugés trop endurcis. Pour se résumer les choses ainsi, le monde humain est le royaume du hasard et de l'erreur, qui y gouverne tout sans pitié, les grandes choses et les petites. À côté d'eux, le fouet en main, marche la sottise et la malice. Aussi voit-on que toute bonne chose a peine à se faire jour, que rien de noble ni de sage n'arrive que bien rarement à se manifester, à se réaliser ou à se faire connaître. Qu'au contraire, l'inepte et l'absurde en fait de pensée, le plat, le sans-goût en fait d'art, le mal et la perfidie en matière de conduite dominent, sans être dépossédés, sauf par instant. En tout genre, l'excellent est réduit à l'état d'exception, de cas isolé, perdu dans des millions d'autres. Et si parfois il arrive à se révéler dans quelque œuvre de durée, plus tard, quand cette œuvre a survécu aux rancunes des contemporains, elle reste solitaire, pareille à une pierre de ciel que l'on conserve à part, comme un fragment détaché d'un monde soumis à un ordre différent du nôtre.
C'est injuste de travailler comme un homme de peine, sans argent à soi gagné par son travail.
L'argent que t'as, c'est par ton travail.
Ouais, parce que c'est toi qui vas m'entretenir. Quand Théo c'est fini, je le sens mieux que personne. Il y a des jours, ça me dégoûte de peindre. Enfin, après tout, c'est tant mieux. Je lui écris que tout va bien, mais... Et Théo se rend compte de rien, il regarde même pas ce que je fais.
Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il voit très bien tout ça. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise? Que c'est mauvais? C'est ridicule.
Mais défends-le, tu prends systématiquement sa défense.
Non, j'essaie de comprendre,
c'est tout. Y a pas à comprendre, moi, je sais. Pardon, mais c'est énervant de t'entendre raconter des choses que tu connais pas. Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes. Je chantais le regard de mon père. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus sale, de plus laid, de plus inutile pour mériter ce regard-là. J'ai essayé sérieusement et simplement de peindre à ma façon. C'est tout. Bon, je continue. À quoi bon continuer ?
Oh, arrête de te plaindre, t'as tout pour toi. T'imagines pas ce que tu peux encore faire au lieu de te lamenter sur ton frère, sa femme et le reste. Tout le reste. Oublie-les un peu. Si un jour le nom de Vincent Van Gogh est célèbre, ce sera pas parce que c'est le nom de ton neveu, figure-toi.
On est mariés. Tu parles déjà comme Bobonne sur l'oreiller.
Mais c'est sérieux, écoute. Tu fais rien. Les autres te poussent pas, tu les remorques. Ils sont jaloux, ce que t'as, ils l'ont pas, ils le savent très bien.
Clémentine Gourdon, on vient d'entendre un extrait du film de Maurice Pialat, un extrait de Van Gogh, dans lequel, justement, Van Gogh est peut-être le disciple de Schopenhauer par excellence, totalement déprimé, alors que la jeune fille qui l'accompagne, Marguerite, son amante, elle est plutôt pleine de vie. C'est les rêves de la jeunesse. Elle incarne les rêves de la jeunesse dont parle Schopenhauer au début de cette troisième partie qu'on a entendu interpréter à nouveau par Fabian Wolfram. Effectivement, là, on a deux points de vue que Schopenhauer n'hésite pas à mettre en parallèle dans cette troisième partie, Clémentine Gourdon.
Ah oui, tout à fait. Il y a le point de vue de l'idéaliste qui est pour Schopenhauer le jeune. Et le mot rêve doit amener l'élève qui effectue l'explication à prononcer le concept d'idéalisme. Et donc il y a bien sûr l'autre point de vue, celui de Schopenhauer ou de Van Gogh, qui est le point de vue du pessimiste, qui se veut réaliste.
Quel serait ce réalisme? Est-ce que là, l'élève, à ce moment-là, va effectivement restituer des connaissances, c'est-à-dire non pas rester seulement accroché au texte, mais ça va être l'occasion, comme vous le disiez, Clémentine Gourdon, peut-être de faire intervenir cette idée d'idéalisme, de réalisme. Comment l'élève va pouvoir restituer ces deux notions?
Si l'élève doit parler, il faudrait donc d'idéalisme, il faudrait convoquer une autre notion qui est celle d'illusion. Il faudrait convoquer une troisième notion, qui est celle de désir, car une illusion provient presque toujours d'un désir. Or, la jeune personne, c'est une personne qui désire. C'est la personne la plus désirante qui soit, puisqu'elle est pleine d'espoir, elle désire l'avenir, déjà. Elle est tournée, toute tournée vers l'avenir, elle manque d'avenir. Elle désire le bonheur, elle désire l'amour, généralement. Elle désire un travail, ou du moins un travail plaisant. Et donc, ces désirs vont amener la jeune personne à se faire des illusions, souvent, quand on est jeune et qu'on n'est pas encore sorti de la caverne, disons. Et à l'inverse, le réaliste, on a tendance à penser que c'est la personne qui est plus âgée.
Donc l'élève en viendrait à définir ce texte comme le texte d'un réalisme empirique, en fait, qui procéderait par l'exemple, par l'observation.
Oui, l'observation de la réalité, enfin, je veux dire, c'est un fait, doit mener au réalisme. L'idéaliste n'est pas un observateur. L'idéaliste voit le monde à travers le prisme de ses désirs, de sa conscience également. Donc, observer, par conséquent, c'est être réaliste. La raison ici s'appose au réel, l'explique et en livre une connaissance qui se veut donc certaine, généralement.
Cette troisième partie est plus longue que les deux premières parties réunies. Mm-hmm. Comment l'élève va découper cette partie en plusieurs sous-parties? Quelle va être l'idée centrale qui va pouvoir ressortir au-delà de ce point de départ qui est les rêves de jeunesse, l'idéalisme, l'illusion qui va devoir être dépassée? Comment l'élève va ensuite procéder, sachant qu'à la fin quand même de ce texte apparaît cette idée d'excellent qui est réduit à l'état d'exception, ce qui veut dire que Schopenhauer n'exclut pas cette possibilité d'un excellent.
En effet, c'est vrai que donc, c'est une partie qui peut également se scinder en deux, puisqu'on voit bien qu'il y a à la fin cette évocation mélancolique et très belle, je trouve, de l'excellence. Et probablement que Schopenhauer parle de lui, entre autres, dans cette dernière partie. Donc il faudrait commencer par dire que dans cette troisième partie, nous avons changé de thème. Il s'agit à présent de parler du monde humain et de sa réalité, non plus de la souffrance individuelle et de l'existence. Donc commencer par dire qu'on a changé de thème, qu'on a donc une deuxième thèse qui rejoint la première, puisqu'il est toujours question de souffrance. Sauf qu'ici, la question, pour Schopenhauer, c'est de se demander et de révéler combien et pourquoi le monde est-il si vicié, les hommes sont-ils si méchants les uns avec les autres, si sots, si vains, si fourbes. Donc là, il va falloir encore en rester à la posteriori, à l'expérience, à l'observation et donc au réalisme, mais donc à partir d'observations cette fois différentes, plus collectives, plus générales, plus mondaines aussi.
Oui, mais c'est vrai que dans cette troisième partie, on voit toute une... Schopenhauer procède par accumulation, c'est-à-dire qu'il va... Il énumère la pensée, ce qui est inepte et absurde dans la pensée, ce qui est plat et sans goût dans l'art, le mal et la perfidie en matière de conduite. Il énumère tout ça et on peut se poser la question et du coup interroger la thèse de départ qui est que la vie est un état de malheur radical, mais alors d'où provient ce malheur? C'est-à-dire que est-ce que ça tient à la nature des hommes, à la condition des hommes, au monde dans lequel on vit? Est-ce que Schopenhauer nous pousse à interroger la source de ce malheur?
Oui, ça il le fait surtout, enfin il nous demande surtout de le faire dans la première partie du texte, en effet, quand il prononce le terme par nature. Par nature, donc il faut bien se demander qu'est-ce qui, dans notre essence, est responsable d'une part donc de notre souffrance individuelle, mais aussi de notre incapacité à vivre ensemble en société. Schopenhauer, qui est aussi l'auteur de la parabole des porcs épics, hein, nous sommes des porcs épics, à savoir nous avons besoin les uns des autres, donc nous nous rapprochons par des froides nuits d'hiver, mais nos piquants font que nous nous séparons constamment. Et ici, il est question de ça, hein, de cette description d'un monde où on n'arrive pas à cohabiter. Et c'est probablement dû, entre autres, à notre essence, qui est d'être des êtres de désir, et qui dit être de désir dit généralement être en compétition, être jaloux aussi.
Pourtant, il n'emploie pas le terme de désir.
Non, il ne l'emploie pas, en effet. On ne sait pas vraiment si dans cette partie du texte, il parle de l'essence de l'homme. Est-ce que les constats qu'il fait ici, cette accumulation, je ne suis pas sûre qu'elle se rapporte à une quelconque essence de l'homme. Parce que c'est une question très très difficile. Pourquoi l'homme est-il mauvais? Pourquoi l'homme est-il sot, perfide? Est-ce que c'est une question d'essence ou d'éducation,
Mais c'est ça, peut-être que l'élève déjà peut mentionner en fait ce blanc laissé par Schopenhauer, parce que même si dès la première partie il est dit que par nature la vie n'admet point de félicité vraie, que c'est un état de malheur radical, reste à savoir de quoi relève cette nature. Est-ce que c'est la nature de la vie en elle-même, de la vie humaine, de la vie constituée par l'association des hommes entre eux? Effectivement, il y a quand même un blanc qui est laissé par Schopenhauer et qui est peut-être à mentionner par l'élève.
Alors là, vous soulevez un point très important, c'est que dans une explication de texte, poser des questions et les laisser sans réponse est une excellente chose. Ça, oui. Et puis ça donne un dynamisme à la copie et qui la rend extrêmement agréable à lire. Donc si on ne sait pas bien quelles sont les raisons pour Schopenhauer, puisqu'il n'en parle pas, de cette sottise, de cette malice, de cette absence de noblesse et de sagesse, soit il faut interpréter, soit il faut simplement poser la question, d'où vient-elle ? On ne sait pas. Point.
Schopenhauer n'en répond pas.
Non, mais c'est vrai qu'on peut penser... Et du coup, il faudrait, à partir de la troisième partie, revenir à la première. C'est bien aussi d'avoir ce mouvement-là. Hein. C'est un travail de surplomb, c'est un travail d'aigle, une explication. À la fois un travail de fourmi, il faut être très près du texte, de chaque ligne, et un travail d'aigle, parce qu'il faut toujours le survoler et comprendre sa cohérence. Et on voit bien, à partir de la troisième partie, que cet état de malheur mondain, cette incapacité d'être heureux ensemble, a probablement aussi son origine, ou a peut-être son origine, dans cette incapacité à être heureux seul également, ou c'est peut-être parce que les hommes souffrent qu'ils font payer aux autres leur souffrance. Enfin, on ne sait pas vraiment. Là, on ne sait pas vraiment.
Amérique, notre belle Amérique.
Par moments, je voudrais m'endormir jusqu'à mes 18 ans. Pour échapper à toute cette merde, le lycée et tout, sauter tout ça.
Tu connais Marcel Proust ?
Le gars sur qui tu donnes des cours ?
Oui, un écrivain français. Un loser toute catégorie. Il n'a jamais travaillé. Des histoires d'amour bancales, gays. Il a passé 20 ans à écrire un bouquin que pratiquement personne n'a lu, ce qui ne l'empêche pas d'être le plus grand écrivain depuis Shakespeare. Enfin bref, lui, en arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie, qu'elles avaient fait de lui ce qu'il était. Et que toutes les années de bonheur avaient été une perte de temps. Il n'avait rien appris. Alors, si tu t'endormais jusqu'à tes 18 ans, oh, pense à toute cette souffrance que tu raterais. Le lycée, tiens, surtout le lycée, ce sont les plus belles années de souffrance. C'est de la souffrance de première qualité.
Clémentine Gourdon, on vient d'entendre un extrait du film Little Miss Sunshine. C'est un film qui date de 2006. Et dans cet extrait, on entend l'oncle Frank qui vient consoler Dwayne. Donc Dwayne, c'est ce personnage qui voulait devenir pilote et en fait qui est daltonien et qui ne pourra pas le devenir. Et donc oncle Frank va le consoler finalement en lui montrant à quel point l'âge dans lequel il est est le plus désespéré. Et c'est peut-être de là que provient la plus grande jouissance du malheur. Est-ce que c'est une bonne manière pour l'élève d'interpréter ce texte? Alors, à savoir, dire que c'est un texte sur le bonheur, ce serait passer à côté du sujet. Dire que c'est un texte qui est ironique, ce serait aussi faire un contresens. Dire que c'est un texte qui nous fait prendre conscience de notre malheur radical pour devenir heureux, peut-être qu'on se tromperait un peu aussi. Mais alors là, dire qu'il y a du plaisir à être malheureux, est-ce que ce serait une manière d'y voir un peu d'espoir dans ce malheur ?
Il y a du plaisir à être malheureux a posteriori. Justement,
a posteriori, dans le sens dont l'emploi Schopenhauer, c'est-à-dire dans le sens d'un cas particulier après coup.
Non, je veux dire que le personnage de Little Miss Sunshine, l'oncle, il se remémore ses années de jeunesse, et là il dit il y avait du plaisir à être malheureux, mais est-ce que ce plaisir à être malheureux, il ne l'a pas ressenti comme ça lorsqu'il était en train de vivre ce malheur, il me semble. Il sait maintenant qu'il interprète cette époque-là, peut-être comme la plus plaisante. Mais c'est difficile, c'est vraiment pas une thèse qui me semble facile à soutenir.
Alors pourquoi elle n'est pas facile à soutenir ? Qu'est-ce que le texte dit, semble dire le contraire ?
Qu'il y a du plaisir à être malheureux ?
Est-ce que c'est ce serait une erreur d'interprétation que d'essayer de sauver le texte, le malheur du texte, en voulant y trouver un plaisir dans ce malheur ?
Oui. Je pense que ce serait une erreur d'interprétation. Enfin, il n'y a pas d'erreur d'interprétation en explication de texte. Il peut y avoir que des contresens sur le texte, mais pas quand on prend de la hauteur et qu'on essaye de le discuter. Mais on va pas non plus parler de complaisance, on va pas non plus parler de noirceur radicale, il y a bien à la fin du texte. Non, même pas à la fin du... Moi, je trouve le texte extrêmement noir, même à la fin. Je trouve qu'il est absolument sans espoir. Parce que Schponer parle de lui, il parle du mépris de ses contemporains. Schponer est clairement en train de dire « je vais mourir sans avoir été lu, je vais mourir sans avoir été aimé ».
Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui.
Et oui, et c'est ça qui est absolument... C'est cette émission d'aujourd'hui qui sauve ce texte et qui sauve Schopenhauer. C'est le fait d'en parler et de faire en sorte que cette étoile, cette comète...
Mais l'aurait-il voulu d'ailleurs, parce que vu ce qu'il dit à la fin, c'est-à-dire que l'excellent est réduit à l'état d'exception, que l'excellent reste solitaire, pareil à une pierre du ciel que l'on conserve à part, comme un fragment détaché d'un monde soumis à un ordre différent du nôtre, c'est magnifique. Et en même temps, effectivement, il y a peut-être ici une lueur d'espoir, c'est peut-être aussi le sort qu'on accorde à Schopenhauer, mais finalement... Comment ouvrir ce texte? C'est-à-dire que comment l'élève va conclure une fois qu'il est abattu à ce point-là?
D'accord. Alors, en tout cas, ce qui est... Enfin, je pense qu'à la fin du texte, il n'est plus question de la notion de bonheur. Savoir l'excellence dont il parle, c'est une excellence en matière d'art, c'est une excellence en matière de morale, de sagesse. C'est pas... Il ne parle pas du bonheur, il ne dit pas qu'on peut être heureux à la fin du texte.
Ce serait une excellence comme lui, une excellence intellectuelle, comme Van Gogh.
C'est ça, exactement, parce qu'il parle du plat et du sans-goût en fait d'art, de l'inette et de l'absurde en fait de pensée. Et quand il parle d'excellence, ben, on voit bien qu'il parle de tout l'inverse, de l'inepte, de l'absurde, du plat et du sans-goût. Donc pour moi, il n'y a pas d'espoir dans ce texte au sens où Schopenhauer ne nous dit pas « Allez, si, vous pouvez être heureux, ça, c'est possible. » Ou plus tard, quand vous réfléchirez à votre adolescence, vous direz « J'ai souffert, mais j'ai apprécié cette souffrance. » Ou non, ça, faut attendre Nietzsche hein, pour le fameux « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. » Il faudra attendre Nietzsche et Schopenhauer n'est absolument pas, il me semble, en train d'évoquer une lueur. Alors l'élève pourrait terminer éventuellement par une ouverture sur Spinoza, pourquoi pas, le Conatus, cette autre essence, cette autre force de vie intrinsèque qui nous porte qui nous porte à rechercher ce qui est bon pour nous, ce qui nous est utile et ce qui nous est plaisant et qui nous donne des affects de joie. Honnêtement, si j'avais ce texte, si je pouvais avoir 18 ans à nouveau et avoir ce texte, je crois que je conclurais dans le sens de Schopenhauer, sans chercher à discuter sa thèse, simplement en l'acceptant. Parce que je suis tellement émue en fait, à la fin du texte par son désespoir que j'ai envie de lui donner raison. Mais bon, comme le disait Artus ici présent, c'est comme ça qu'il terminait sa conclusion. Schopenhauer nous abat pour mieux nous relever. Voilà, on pourrait terminer comme ça peut-être aussi.
Est-ce que ce serait une prise de conscience en fait à laquelle nous mènerait Schopenhauer, c'est-à-dire nous ouvrir les yeux et non pas pour essayer de lutter pour être heureux contre ce malheur, mais finalement à la manière aussi de Spinoza dans l'éthique, nous ouvrir les yeux sur ce qui nous détermine pour finalement être dans une connaissance. Et c'est aussi en fait un texte qui a une dimension épistémologique indéniable dans la manière dont il procède. Oui. Et finalement, nous ouvrir les yeux, être dans la certitude de ce malheur, en avoir conscience, et ne pas forcément revoir nos manières d'être, mais juste pour le pur plaisir de savoir.
Et ce serait complètement la position de l'homme absurde et de Sisyphe. Celui qui est conscient de son malheur, mais qui s'en fiche. Enfin, qui est conscient de son malheur, mais qui n'en souffre pas. En effet, on pourrait, il me semble, ouvrir comme ça. Je suis malheureux, j'ai pris conscience de la misère, j'ai pris conscience du peu de joie qui m'entoure, mais... Ou alors, on pourrait aussi ouvrir sur l'action. La nécessité de l'action. La nécessité de l'action politique, la nécessité de l'engagement. Faire de sa vie bah, une révolte, hein, justement. Le monde est triste, la vie est dure, battons-nous. Le problème, c'est que pour Schopenhauer, c'est par essence. Or, notre essence.
C'est ça, c'est-à-dire que le texte nous semble. Il est difficile d'ouvrir à quelque chose après ce texte, même de prendre de la hauteur. Et effectivement, même défendre une lueur d'espoir, ne serait-ce que par l'action. Est-ce que ce serait envisageable dans la mesure où, en plus, même s'il parle de l'homme individuellement, de l'homme dans le monde, en fait, l'idée d'une politique alors qu'on parle d'une individualité telle, est-ce que ce serait pas à la fois une ouverture qui ne tiendrait là pour le coup qu'à l'élève lui-même, mais qui irait un peu contre le sens de ce texte qui n'a rien de politique a priori ?
N'a rien de politique et en même temps, à partir du moment où on parle d'absence de sagesse, d'absence de noblesse, de sottise, de malice, on parle de politique au sens étymologique du terme, à savoir de société et du fait de vivre ensemble. Donc je trouve au contraire qu'il a, elle est certes pas évidente ni explicite, mais une dimension politique au sens vraiment étymologique. Et du coup, je pense qu'on pourrait ouvrir en disant, bah, nous qui sommes ces porcs épiques, là, incapables de nous supporter, bah, faisons un effort peut-être. Arrêtons de ce sans-goût, ce plat, cette sottise, cette malice, si nous en sommes capables. Et comme on n'a toujours pas déterminé d'où elle venait, quelle était l'origine de cette sottise, de cette malice, etc., c'est difficile. Donc comment ouvrir, comment terminer dans tous les cas, et c'est pour ça que votre introduction était vraiment, vraiment excellente, ne jugez pas Schopenhauer. Il ne faut pas le juger.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris, quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qu'a ri.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le monde est beau, tout le monde, il est gentil.
Eh bien, un grand merci à vous, Clémentine Gourdon, d'être venue éclairer ce texte très peu lumineux de Schopenhauer. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, merci à vos élèves de Terminal S et STL, du lycée en forêt de Montargis, et non pas de Montargis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mille excuses. Et donc, vous pouvez applaudir votre professeur.
Merci.
Et demain, quant à nous, changement de cap, chers auditeurs, ce sera l'actualité philosophique dans Les Chemins du Vendredi. Et demain, j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe Marc Jiménez pour la sortie de son livre « Art et technosciences, bioart, neuroesthétique » aux éditions Klinksic. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission, celle de cette semaine et celle de janvier dernier que nous avions déjà consacrée aux révisions du bac philo, et même celle des années passées, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement les écouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et comme c'est une semaine spéciale Bac 2016 sur France Culture, vous avez aussi rendez-vous à 15h avec Mathieu Garrigou-Lagrange pour les lettres dans la compagnie des auteurs et à 16h pour les sciences. Et je rappelle, comme tous les jeudis, que nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine, dont vous pouvez lire le numéro de mai avec un dossier sur Nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes, un entretien entre Michael Fossel et Jean-Loup Chrétien, ce que pleurer veut dire, et une rencontre avec Ta-Nehisi Coates sur le racisme mis à nu. Et puis un grand merci aussi pour cette préparation incroyable et dans l'urgence à Véronique Villa, Nicolas Berger, Lucie Tardy, David Pargamin et Marianne Chassor. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.